Les affinités électives, deuxième partie, chapitre 16. Lorsque Mittler arriva près du baron pour lui faire part du départ d'Ottilie, il le trouva seul, et la tête appuyée dans sa main droite. Il paraissait souffrir. « Est-ce que votre mal de tête vous tourmente encore ?» lui dit-il. « Oui, et j'aime cette souffrance, car elle me rappelle Ottilie. Peut-être... « Est-elle en ce moment appuyée sur sa main gauche ? Car, vous le savez, pour elle, le mal est au côté gauche de la tête. Il est sans doute plus fort que le mien. Pourquoi ne le supporterais-je pas avec autant de patience qu'elle ? Au reste, cette souffrance a pour moi quelque chose d'utile, de salutaire. Elle me rappelle puissamment la patience angélique qui complète toutes les perfections dont elle est douée. Ce n'est que lorsque nous souffrons que nous comprenons combien il faut de grandes et hautes qualités pour supporter la douleur. » Enhardi par l'air de résignation de son jeune ami, Mittler s'acquitta de sa commission par degrés, et en racontant comment le retour d'Ottilie à la pension n'avait d'abord été chez les deux dames qu'une pensée, un vague désir, puis un projet, et bientôt après, une résolution définitivement arrêtée. Édouard ne répondit que par des monosyllabes qui semblaient prouver qu'il laissait Charlotte et sa nièce maîtresses de faire ce qu'elles voulaient, et que pour l'instant, son mal de tête l'absorbait au point de le rendre indifférent à tout. Mais à peine Mittler l'eut-il quitté qu'il se leva et se promena à grands pas dans sa chambre. Jeté violemment en dehors de lui-même, il ne sentait plus son mal de tête. Son imagination d'amant était surexcitée. Il voyait Ottilie, seule, sur une route qu'il connaissait parfaitement et dans une auberge dont il avait successivement habité toutes les chambres. Il pensait, il réfléchissait. Ou plutôt, il ne pensait, il ne réfléchissait point. Il désirait, il voulait. Quoi ? La voir, lui parler. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Comment aurait-il pu se le demander ? Il ne chercha pas même à lutter. Une puissance irrésistible l'entraîna machinalement. Son premier soin fut de se confier à son valet de chambre, qui se procura en peu d'heures tous les renseignements nécessaires. Dès le lendemain matin, Édouard se rendit seul et à cheval à l'auberge où Ottilie devait passer la nuit. Il y arriva beaucoup trop tôt. L'hôtesse l'accueillit avec des transports de joie. Elle lui devait un grand bonheur de famille. Son fils avait servi sous ses ordres et fait une action d'éclat dont lui seul avait été témoin. Guidé par la justice, le baron avait fait valoir cette action auprès du général en chef et obtenu pour le jeune soldat une décoration méritée, et que l'envie et la jalousie avaient cherché à lui disputer. L'heureuse mère ne négligea rien pour lui prouver sa reconnaissance et pour le recevoir dignement. Elle fit nettoyer en hâte son salon, qui malheureusement lui servait en même temps de garde-meuble et d'office. Il refusa d'en prendre possession, lui dit de le réserver pour une jeune dame qui l'attendait, et se fit arranger pour lui un petit cabinet qui donnait sur le corridor. L'hôtesse présuma que ces mesures cachaient quelque mystère, et elle s'estima heureuse de trouver sitôt l'occasion de faire quelque chose qui pût être agréable au protecteur de son fils. Pendant le reste de la journée, Édouard fut en proie aux sensations les plus contradictoires. Tantôt il visitait la chambre qui devait servir de demeure à Ottilie et qui, malgré son singulier mélange d'élégance et de rusticité, lui paraissait un séjour céleste. Et tantôt il formait des projets sur la manière de se présenter à elle, et il se demandait s'il devait la surprendre ou la préparer à sa présence. Cette dernière opinion lui parut la plus sage, et il se mit à lui écrire le billet suivant. Édouard à Ottilie. Pendant que tu liras ce billet, ma bien-aimée, je serai là, tout près de toi. ne t'en effraie point. Que pourrais-tu craindre de ton ami? Je ne te contraindrai pas à me recevoir. Non, je ne me présenterai devant toi que lorsque tu me l'auras permis. Avant de m'accorder ou de me refuser cette grâce, songe à ta position, à la mienne. Je te remercie de t'être abstenu jusqu'ici de toute démarche irrévocable. Celle que tu es sur le point de faire, cependant, est grave, significative. Je t'en conjure, reviens sur tes pas, car tu marches vers un point où nous serons forcés de dire « Là, notre route nous sépare ». Demande-toi de nouveau si tu peux, si tu veux être à moi. Si tu le peux, tu nous accorderas à tous un grand bienfait. Pour moi surtout, il sera incommensurable. Souffre que je te revoie, de ton consentement et avec joie. Que ma bouche puisse t'adresser cette douce question « Veux-tu m'appartenir ?» et que ta belle âme y réponde. « Ma poitrine, Ottilie, cette poitrine sur laquelle tu t'es appuyée quelquefois, c'est là ta place pour toujours. » Tout en traçant ces mots, l'idée que l'objet de ses plus chères affections ne tarderait pas à arriver le saisit avec tant de force qu'il la croyait déjà à ses côtés. « C'est par cette porte qu'elle entrera, » se dit-il. « Elle lira ce billet, je la verrai en réalité. Ce ne sera plus une douce vision comme il m'en est apparu tant de fois. Mais sera-t-elle toujours la même? Son extérieur, ses sentiments seraient-ils changés ?» Tenant toujours la plume à la main, il allait jeter sur le papier les pensées qui se présentaient à son imagination. Au même instant, une voiture entra dans la cour et il ajouta en hâte les mots suivants. « C'est toi, je t'entends arriver. Adieu, pour un instant seulement. Adieu. » Puis il plia le billet et écrivit l'adresse. Mais il était trop tard pour le cacheter et il se sauva dans un cabinet qui donnait sur le corridor. Se souvenant tout à coup qu'il avait laissé sur la table sa montre et le cachet qui y était attaché, il sentit qu'Ottilie ne devait pas voir ses objets avant d'avoir lu sa lettre, et il retourna sur ses pas pour les enlever. Déjà, il les tenait dans sa main, quand il entendit la voix de l'hôtesse qui désignait à la jeune voyageuse la chambre où elle allait l'introduire. Craignant d'être surpris, il s'élança vers le cabinet. Mais avant de l'atteindre, un courant d'air enferma violemment la porte et la clé qui était restée en dedans tomba sur le plancher du cabinet. Hors de lui, il secoua la porte avec violence, mais elle ne céda point. Combien n'envia-t-il pas alors le sort des fantômes qui se glissent à travers les serrures? Ne sachant plus ce qu'il voulait ou ce qu'il devait faire, il se cacha le visage contre le chambranle de la porte. Ottilie entra du côté opposé, et l'hôtesse qui la suivait se retira presque aussitôt, car la présence inattendue et l'attitude singulière d'Édouard l'avaient surprise et même effrayée. La jeune fille aussi venait de le reconnaître, et il se tourna vers elle, car il avait conservé assez de présence d'esprit pour sentir qu'elle devait l'avoir vue. Ce fut ainsi que les deux amants se trouvèrent de nouveau en face l'un de l'autre. Muette et immobile, Ottilie le regarda d'un air sérieux et calme. Mais au premier mouvement qu'il fit pour s'approcher d'elle, elle recula jusqu'à la table. « Ottilie ! » s'écria-t-il. « Pourquoi ce terrible silence ? Ne sommes-nous déjà plus que des ombres qui se dressent en face l'une de l'autre ? Écoute-moi. C'est par un hasard funeste que tu me trouves ici. Regarde, là, sur cette table, je t'ai écrit. J'y ai déposé le billet qui devait te préparer à ma présence. Je t'en conjure, lis-le, et puis décide, prononce notre arrêt. » Elle baissa les yeux vers le billet, le prit après une courte hésitation, le déploya, le lut sans aucune émotion apparente, le replia et le replaça en silence sur la table. Puis elle éleva ses mains jointes vers le ciel, les rapprocha de sa poitrine, s'inclina en avant, comme si elle voulait se prosterner devant Édouard, et le regarda avec une expression si déchirante qu'il s'enfuit désespéré, et chargea l'hôtesse, qui était restée dans la salle d'entrée, d'aller veiller sur la malheureuse jeune fille. Ne sachant plus que faire, que devenir, il se promena à grands pas dans cette salle. La nuit était venue, et le plus morne silence régnait chez Ottilie. L'hôtesse sortit enfin et ferma la porte à clef. La pauvre femme était émue, embarrassée. Après un instant d'hésitation, elle offrit au baron la clé de la chambre d'Ottilie. Il la refusa d'un geste désespéré. L'hôtesse posa la chandelle sur une table et se retira. Édouard se jeta sur le seuil de la porte d'Ottilie et l'arrosa de ses larmes. Jamais encore deux amants n'ont passé si près l'un de l'autre une nuit aussi cruelle. Le jour parut enfin, le cocher était pressé de partir. L'hôtesse vint ouvrir la chambre d'Ottilie et y entra. En voyant la jeune fille qui s'était jetée tout habillée sur son lit, où elle paraissait dormir paisiblement, elle revint sur ses pas et invita Édouard, par un sourire compatissant, à s'approcher. Il se tint un instant debout devant son lit, mais il lui fut impossible de soutenir la vue de la malheureuse enfant qu'il avait bannie de sa présence. L'hôtesse n'eut pas le courage de la réveiller. Elle prit une chaise et s'assit en face d'elle. Bientôt, Ottilie ouvrit ses beaux yeux et se leva. L'hôtesse lui offrit à déjeuner, elle refusa d'un geste. Édouard renvoya l'hôtesse qui venait de rassembler toutes ses forces et se présenta devant la jeune fille. « Je t'en supplie, lui dit-il, adresse-moi un mot, un seul mot. Fais-moi du moins connaître ta volonté. Donne-moi tes ordres, je t'obéirai. » Elle garda le silence. Il lui demanda de nouveau avec amour, avec délire, si elle voulait lui appartenir. Elle baissa les yeux, et sa belle tête s'agita avec une grâce ineffable, mais ce mouvement était un signe négatif. « Veux-tu te rendre à la pension ?» lui demanda Édouard avec égarement. Elle secoua la tête d'un air indifférent. Mais lorsqu'il lui demanda si elle voulait lui permettre de la ramener près de Charlotte, elle y consentit par un geste plein de confiance. Il ouvrit la fenêtre pour donner des ordres au cocher. Ottilie profita de ce moment pour glisser rapidement derrière lui. Sortant de la chambre avec la rapidité de l'éclair, elle descendit l'escalier et s'élança dans la voiture. Le cocher prit le chemin du château. Édouard suivit la voiture à cheval, mais à une certaine distance. Chapitre 17. Quelle ne fut pas la surprise de Charlotte lorsqu'elle vit entrer en même temps dans la cour du château la voiture qui ramenait Ottilie et son mari qui la suivait à cheval. Sans se rendre compte de ce singulier événement, elle courut recevoir ses hôtes inattendus. La jeune fille s'avança vers elle avec Édouard, saisit les mains des époux, les unit avec un geste passionné et s'enfuit dans sa chambre. Le malheureux Édouard se jette au cou de sa femme, éclate en sanglots, la supplie d'avoir pitié de lui et de secourir Ottilie. Charlotte s'empresse d'aller la rejoindre dans sa chambre, mais en y entrant, elle frémit malgré elle. On en avait déjà emporté tous les meubles, à l'exception du magnifique coffre dont on ne savait que faire et qu'on avait laissé au milieu de l'appartement. Ottilie s'était jetée par terre, à côté de ce fatal objet. Elle y appuyait sa tête et l'entourait de ses bras. Charlotte la relève et l'interroge, mais en vain. La jeune fille ne répond pas. Une femme de chambre vient apporter des sels et des fortifiants propres à la tirer de son état de stupeur. Et Charlotte court près d'Édouard, qu'elle trouve au salon, mais hors d'état de l'instruire de ce qui vient de se passer. Il se prosterne devant elle, baigne ses mains de larmes et finit par s'enfuir dans son appartement. En voulant le suivre, elle rencontre son valet de chambre qui lui en apprend enfin assez pour lui faire deviner le reste. Toujours maîtresse d'elle-même, elle s'occupe avant tout des exigences du moment et fait rapporter les meubles dans les appartements d'Ottilie. Quant à Édouard, il a retrouvé les siens dans l'état où il les avait quittés. Pas un meuble, pas un papier n'avait été dérangé. Tous trois semblaient s'entendre et ne vivre que les uns pour les autres. Ottilie cependant persista à se renfermer dans un silence désespérant. Édouard continua à exhorter sa femme à la patience, car la sienne l'abandonnait à chaque instant. Charlotte envoya un messager à Mittler et l'autre au major pour les appeler près d'elle. Il fut impossible de trouver Mittler, mais le major accourut en hâte. Édouard ouvrit son cœur à cet ami fidèle et lui raconta jusque dans les plus petits détails tout ce qui venait de se passer. Ce fut par lui que Charlotte apprit enfin à connaître les causes secrètes qui avaient de nouveau troublé leurs esprits et changé leur position. Entourant son mari des soins les plus tendres et les plus délicats, elle ne cessa de le supplier de ne pas importuner la malheureuse enfant, en lui demandant une résolution qu'elle n'était pas en état de prendre. Édouard apprécia plus que jamais la haute raison de sa femme, mais sa passion pour Ottilie le dominait toujours exclusivement. En vain, Charlotte chercha-t-elle à entretenir ses espérances en lui promettant de consentir au divorce. Il soupçonna sa sincérité et s'abandonna aux conjectures les plus bizarres. Poussé par le doute et la défiance, il exigea qu'elle prît formellement l'engagement d'épouser le major. Elle consentit à tout pour le conserver et le tranquilliser, car le désordre de son esprit tenait de la démence. Cependant, elle mit au consentement de son mariage avec le major la condition expresse qu'Ottilie deviendrait la femme d'Édouard, et que, pour l'instant, les deux amis feraient ensemble un voyage de quelques mois. Cette dernière condition était facile à remplir, car le major venait d'être chargé d'une mission secrète pour une cour étrangère, et le baron promit de l'accompagner. On fit aussitôt les apprêts du voyage, ce qui leur procura à tous une distraction salutaire. Malgré cette activité inquiète, on s'aperçut qu'Ottilie ne prenait presque plus de nourriture. Ses amis lui firent les représentations les plus douces et les plus tendres, mais sans rompre le silence absolu qu'elle s'était imposé. Elle trouva moyen de leur faire comprendre que leurs soins l'importunaient et l'affligeaient. Ils n'insistèrent plus, car par une faiblesse inexplicable, nous craignons toujours de tourmenter les personnes que nous aimons, même lorsque nous sommes convaincus que c'est pour leur bien. Après avoir longtemps cherché dans sa pensée un nouveau moyen d'action sur l'esprit malade d'Ottilie, Charlotte conçut l'idée de faire venir le professeur, dont elle connaissait l'influence sur son ancien élève. Déjà, elle avait eu soin de l'instruire du retour de la jeune fille à la pension, et comme elle ne s'y était pas rendue, il avait écrit à Charlotte pour lui demander la cause de ce retard. Cette lettre, qui exprimait la tendre inquiétude d'un véritable ami, était restée sans réponse. Trop prudente pour vouloir surprendre la malade par une visite qui pouvait ne pas lui être agréable, elle parla devant elle du projet d'engager le professeur à venir passer quelque temps au château. Un mécontentement douloureux se manifesta sur les traits d'Ottilie. Elle devint pensive, comme si elle cherchait à prendre une résolution. Puis elle se leva et se retira en hâte dans sa chambre. Bientôt, ses amis encore réunis au salon reçurent le billet suivant. Ottilie à ses amis. Pourquoi, mes bien-aimés, faut-il que je vous dise clairement ce que vous devez déjà avoir deviné? Je me suis laissé écarter de la route que je devais suivre, et je ne puis plus y rentrer. Le démon qui m'a égaré a pris tant d'empire sur moi que j'ai beau être d'accord avec moi-même au fond de mon âme, il fait surgir des circonstances extérieures par lesquels il m'empêche d'exécuter mes bonnes résolutions. Je m'étais promis sincèrement de renoncer à Édouard et de ne plus jamais le revoir. Le sort en a décidé autrement. Nous nous sommes revus, malgré moi, malgré lui-même. J'ai peut-être trop fidèlement tenu la promesse que j'avais faite de ne plus jamais lui parler. Dans l'agitation cruelle du moment terrible où je l'ai vu en face de moi, ma conscience m'a dit que je devais agir comme je l'ai fait. J'ai gardé le silence. Je suis devenue muette devant mon ami, et je n'ai plus rien à dire à personne. Les vœux de certains ordres religieux peuvent parfois peser péniblement sur celui qui les a acceptés volontairement. Le mien m'a été imposé par l'impression du moment. Souffrez donc que j'y persiste tant que mon cœur m'y obligera. Ne mettez aucun médiateur entre nous. Ne cherchez ni à me faire parler, ni à me faire prendre plus de nourriture que je n'en ai rigoureusement besoin. Que votre indulgence, que votre bonté m'aident à sortir de cette cruelle époque de ma vie. Je suis jeune, et la jeunesse se remet facilement, et au moment où on s'y attend le moins. Supportez-moi dans votre cercle, consolez-moi par votre amour, éclairez-moi par vos entretiens, mais permettez à ma conscience de ne suivre que ses propres inspirations pour tout ce qui ne concerne qu'elle. Le voyage projeté des deux amis ne se réalisa point, car la mission du major fut remise à une époque indéterminée. Ce contre-temps charma Édouard, car le billet d'Ottilie avait ranimé toutes ses espérances. Se sentant de nouveau la force de persévérer et d'attendre, il déclara positivement que, sous aucun prétexte, il ne consentirait à s'éloigner du château. « Il n'y a rien de plus extravagant, s'écria-t-il, qu'une renonciation volontaire et anticipée. Quand un bien précieux est sur le point de nous échapper, ne vaut-il pas mieux chercher à le ressaisir? Une pareille folie ne peut découler que de la sotte prétention de conserver du moins les apparences de la liberté du choix. Trop de fois déjà, je me suis laissé égarer par cette vanité insensée. Elle m'a fait fuir des amis qui m'étaient chers et dont je ne m'éloignais que parce que je savais que tôt ou tard je serais contraint de me séparer d'eux et que je ne voulais pas avoir l'air de céder à la nécessité. Pourquoi m'éloignerais-je d'elle? Ne sommes-nous pas déjà que trop séparés? Je n'ose plus ni presser sa main ni l'attirer sur mon cœur. Je ne puis pas même le penser sans tressaillir. Elle ne s'est pas détournée de moi, non. Elle s'est élevée au-dessus de moi. » Ce fut ainsi que tout resta sur l'ancien pied. Rien n'égalait le bonheur d'Édouard lorsqu'il se trouvait près d'Ottilie. Et la jeune fille aussi éprouvait une douce sensation qu'elle ne pouvait chercher à éviter, puisqu'elle lui devenait toujours plus indispensable. Le magnétisme mystérieux qu'ils avaient toujours exercé l'un sur l'autre n'avait rien perdu de sa puissance. Quoique habitant sous le même toit, ils ne pensaient pas toujours exclusivement l'un à l'autre, s'occupaient souvent d'objets différents et suivaient les impulsions opposées de leur entourage. Et cependant, ils se trouvaient et se rapprochaient toujours. Quand ils entraient au salon, on les voyait bientôt debout ou assis côte à côte pour se sentir calmes et heureux. Ils avaient besoin de se tenir ainsi le plus près possible, mais ce rapprochement leur suffisait, sans leur faire désirer les communications plus positives du regard et de la parole. Alors, ce n'étaient plus que deux personnes réunies en une seule, par le sentiment instinctif d'un bien-être parfait, et qui se sentaient aussi contentes d'elles-mêmes que du monde. Si l'un d'eux s'était trouvé retenu malgré lui à une extrémité de l'appartement, l'autre se serait aussitôt dirigé vers ce point, sans avoir la conscience de ce mouvement. La vie était pour eux une énigme, dont ils ne comprenaient le mot que lorsqu'ils étaient ensemble. Ottilie semblait avoir retrouvé un calme parfait et une entière sérénité d'esprit. au point que l'on croyait n'avoir plus rien à redouter pour elle. Jamais elle ne se dispensait de paraître aux réunions de la famille, la table seule exceptée. Elle avait si vivement manifesté le désir de manger seule dans sa chambre qu'on s'était cru obligé de céder à cette fantaisie. Nanny seule était chargée de la servir. Les choses qui arrivent ordinairement à tel ou tel individu se représentent plus souvent que nous ne le croyons, parce qu'elles sont, pour ainsi dire, une conséquence de leur nature. Le sentiment de l'individualité, les penchants, les tendances, les localités, les entourages et l'habitude forment un élément, une atmosphère, où seuls nous vivons et respirons à notre aise. Voilà pourquoi nous retrouvons presque toujours, après une longue absence, les amis dont la versatilité nous a souvent désespérés, tels que nous les avons quittés. C'était ainsi que nos amis semblaient, dans leurs rapports de chaque jour, se mouvoir dans le même cercle. Malgré son silence obstiné, Ottilie trouvait moyen de prouver, par une foule de petites prévenances, qu'elle était toujours serviable et bonne, et chacun avait repris ses allures et son caractère. Enfin, cet intérieur reflétait si parfaitement l'image du passé qu'il était possible, permis même de croire que rien n'y était changé, ou que, du moins, tous s'y remettraient bientôt complètement sur l'ancien pied. On était en automne, et les jours ressemblaient par leur durée à ceux du printemps, où le capitaine et Ottilie furent appelés au château. Les heures de promenade et celles des réunions au salon étaient les mêmes, et les fruits et les fleurs de la saison actuelle paraissaient être les produits de cet heureux printemps. On croyait les avoir cultivés et semés ensemble. Tout ce qui s'était passé entre ces deux époques était tombé dans l'oubli. Le major allait et venait sans cesse du château à la résidence et de la résidence au château. Mittler aussi venait souvent voir les amis. Les amusements des soirées avaient repris leur cours régulier. Édouard mettait, dans ses lectures habituelles, plus de feu et de sentiment que jamais. On aurait dit qu'il cherchait, tantôt par la gaieté et tantôt par le sentiment, à faire revenir Ottilie de son engourdissement et à triompher de son silence obstiné. Tenant comme autrefois son livre de manière à ce qu'elle pût y lire, il était inquiet, distrait chaque fois qu'il n'avait pas la certitude qu'elle devançait du regard chaque mot qu'il prononçait. Les soupçons, les inquiétudes, les susceptibilités du passé s'étaient complètement évanouies. Le violon du major s'unissait instinctivement au piano quand Charlotte le tenait, et la flûte d'Édouard se mariait avec bonheur au jeu d'Ottilie, quand les touches de cet instrument vibraient sous les doigts de la jeune fille. Ce fut dans cette disposition d'esprit qu'on vit approcher l'anniversaire de la naissance du baron, pour laquelle l'année précédente on avait vainement espéré son retour au château. Cette fois, on s'était promis de célébrer ce jour dans une douce et silencieuse intimité. À mesure qu'il approchait, Ottilie devenait plus grave et plus solennelle. Quand elle visitait les jardins, elle semblait passer les fleurs en revue et faisait signe aux jardiniers de veiller avec soin sur elles, et surtout sur les marguerites, qui cette année donnaient avec une abondance extraordinaire. Chapitre 18. Les amis ne tardèrent pas à s'apercevoir avec bonheur qu'Ottilie s'était décidée enfin à ouvrir le riche coffre et à en tirer plusieurs objets et pièces d'étoffe qu'elle disposa et tailla elle-même afin d'en composer un habillement aussi complet qu'élégant. En aidant à sa maîtresse à replacer dans ce coffre les effets parmi lesquels se trouvaient beaucoup de gants, de jarretières, de bas, de souliers, Nanny s'aperçut qu'il serait difficile de les replier assez adroitement pour les faire tenir tous dans ce même coffre, et elle la pria de lui donner quelques-unes de ces bagatelles qui avait vivement excité sa coquetterie et sa cupidité. Ottilie refusa positivement, mais elle lui fit signe de prendre dans sa commode tout ce qu'elle y trouverait à son goût. Charmée de cette permission, elle en usa avec autant d'indiscrétion que de maladresse, et courut aussitôt montrer son butin à tous les domestiques du château. Pendant ce temps, Ottilie replaça si adroitement tous les dons d'Édouard dans le riche coffre qu'il ne paraissait pas avoir été dérangé. Puis elle ouvrit le tiroir secret placé dans le couvercle qui contenait divers billets d'Édouard, une boucle de ses cheveux, des fleurs sèches qu'ils avaient cueillies ensemble dans des moments de bonheur et d'espérance, et plusieurs autres souvenirs de ce genre. Elle y ajouta le portrait de son père, ferma le tiroir et le coffre, et passa son élégante clé à une petite chaîne d'or qu'elle portait au cou. Les changements survenus dans les allures d'Ottilie avaient fait naître les plus heureuses espérances chez ses amis. Charlotte, surtout, était convaincue que le jour de la fête d'Édouard, elle se remettrait à parler, car elle avait cru reconnaître dans son sourire la joie secrète qu'on cherche vainement à cacher quand on prépare une heureuse surprise aux objets de ses affections. Personne ne savait que la pauvre enfant passait des heures entières dans un état voisin de l'anéantissement, et que la force qui la soutenait en présence de ses amis était factice. Mittler venait souvent au château, et s'y arrêtait plus longtemps qu'à l'ordinaire. Cet homme opiniâtre savait qu'il est des moments où l'exécution des projets les plus difficiles devient facile. Le refus d'Ottilie d'épouser Édouard et le silence qu'elle s'obstinait à garder étaient à ses yeux des augures favorables. Aucune démarche concernant le divorce n'avait été faite. Il pouvait donc espérer encore que la jeune fille trouverait à se placer dans le monde sans troubler l'union des deux époux. Mais il se borna à observer. Il céda même parfois et se contenta de laisser deviner, de donner à entendre. En un mot, il se conduisit assez sagement, du moins d'après son caractère. Ce caractère, cependant, le dominait toutes les fois que l'occasion de raisonner sur des matières importantes se présentait. Depuis longtemps, il vivait presque toujours seul, et lorsqu'il se trouvait en contact avec les autres, ce n'était que pour agir. Mais lorsque, dans un cercle d'amis, il se laissait aller au plaisir de parler, sa parole, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le voir, roulait comme un torrent, sans songer s'il blessait ou s'il guérissait, s'il faisait du bien ou du mal. La veille de l'anniversaire de la naissance d'Édouard, Charlotte et le major étaient réunis au salon en attendant le retour du baron, qui était allé faire une promenade à cheval. Ottilie était restée dans sa chambre, où elle travaillait à la parure du lendemain, secondée par Nanny, qui comprenait et exécutait à merveille les ordres muets de sa maîtresse. Mittler, qui venait d'arriver au château, se promena d'abord à grands pas dans le salon. Puis, la conversation tomba sur un de ses sujets favoris. Selon lui, il n'y avait rien de plus barbare et de plus contraire à l'éducation des enfants, et même à celle des peuples, que de leur imposer des lois qui commandent ou défendent certaines actions. « L'homme est naturellement actif, dit-il, et pour le faire bien agir, il suffit de le bien diriger. Quant à moi, j'aime mieux supporter un défaut jusqu'à ce qu'il se soit converti en qualité, que de le faire disparaître pour ne rien mettre de bon à sa place. Nous aimons tous à faire ce qui est bien et juste, pourvu qu'on nous en fournisse l'occasion. Alors nous le faisons, uniquement pour avoir quelque chose à faire, et sans y attacher plus d'importance qu'aux sottises et aux absurdités dont nous ne nous rendons coupables que pour échapper à l'ennui et à l'oisiveté. Quel avantage, par exemple, continua-t-il, les enfants peuvent-ils tirer des 10 commandements de Dieu qu'on leur enseigne au catéchisme ? Passe encore pour le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. que l'enfant se pénètre bien de ce commandement pendant la leçon, il trouvera le long du jour le moyen de le mettre en pratique. Mais le cinquième, à quoi bon ? Tu ne tueras pas. Comme si c'était une chose toute simple et très récréative que de s'entretuer. Un homme fait s'abandonne à la colère, à la haine, à d'autres funestes passions, et peut, égaré par elle et par la force des circonstances, aller jusqu'à tuer son semblable. Mais n'est-ce pas une atroce folie que de défendre à de pauvres enfants le meurtre et l'assassinat? Si on leur disait « Occupe-toi du bien-être des autres, cherche à leur procurer ce qui leur est utile, à éloigner d'eux ce qui peut leur nuire, expose ta vie pour sauver la leur, et songe que le mal que tu pourrais leur faire retomberait sur toi-même. » Ce seraient là des enseignements tels qu'on doit en donner à des peuples civilisés. Et cependant, on leur accorde à peine une petite place dans les instructions supplémentaires du catéchisme. Et le sixième commandement, n'est-il pas horrible ? Attirer la curiosité des enfants sur les mystères les plus dangereux et enflammer leur imagination par des paroles énigmatiques. N'est-ce pas les jeter de force au milieu des écueils qu'on veut leur faire éviter ? Et ne vaudrait-il pas 100 fois mieux abandonner au bon plaisir d'un tribunal secret le châtiment de pareils crimes que d'en bavarder en pleine église devant la commune réunie ? Ottilie entra doucement et Mittler continua avec feu. « Tu ne commettras point d'adultère. » Que c'est grossier, que c'est inconvenant. Est-ce que cela ne sonnerait pas mieux aux oreilles si l'on disait « Respecte les liens du mariage, et quand tu verras des époux heureux, réjouis-toi de leur bonheur comme de l'éclat d'un beau jour. S'il existe quelques sujets de mésintelligence entre eux, fais-les disparaître, rapproche leur cœur, réconcilie-les. » Fais-leur sentir les avantages de leur position avec un généreux désintéressement. Fais-leur comprendre surtout que si l'accomplissement de chaque devoir est une source de bonheur, celui de ce devoir qui unit indissolublement le mari et la femme est la base de tous les autres devoirs, de tous les autres bonheurs de la vie sociale. Charlotte était sur des charbons ardents. Sa position était d'autant plus pénible qu'elle savait que Mittler n'avait pas la conscience de ce qu'il disait et devant qui il prononçait ces imprudentes paroles. Elle allait l'interrompre lorsque Ottilie, dont le visage avait tout à coup changé d'expression, se retira brusquement. « J'espère, mon cher Mittler, dit Charlotte en s'efforçant de sourire, que vous me ferez grâce du 7e commandement. » « Des 9 commandements, si vous voulez, pourvu que celui qui concerne le mariage soit respecté, car c'est le plus important de tous. » Au même instant, Nanny se précipita hors d'elle dans le salon en poussant ses cris terribles. « au secours, mademoiselle va mourir, mademoiselle se meurt !» Ottilie était retournée dans sa chambre en se soutenant à peine. Les vêtements dont elle voulait se parer le lendemain était encore étalée sur les chaises, et Nanny, qui venait de les contempler de nouveau, avait exprimé son admiration à sa maîtresse, en disant que c'était une véritable parure de fiancée. À peine avait-elle prononcé ces mots, qu'Ottilie était tombée sur le canapé, sans apparence de vie. Égarée par la terreur, la jeune villageoise s'était précipitée dans le salon pour appeler des secours. Charlotte se rend en hâte chez sa nièce, accompagnée du chirurgien, qui, attribuant l'état de la malade à la faiblesse, fait apporter un consommé. Ottilie le repousse avec dégoût, presque avec horreur. Surpris de cette répugnance, il demande quels aliments elle peut avoir pris dans le cours de la journée. Nanny hésite, se trouble, et finit par avouer que sa maîtresse a refusé toute espèce de nourriture. Son agitation excite les soupçons du chirurgien. Il l'entraîne dans une pièce voisine. Charlotte les suit. La jeune fille se jette à leurs pieds et confesse que depuis longtemps déjà, c'était elle qui mangeait les mets qu'on apportait à Ottilie pour ses repas. Mademoiselle m'y a forcé par des gestes tantôt suppliants et tantôt menaçants. Et puis, ajouta-t-elle dans toute l'innocence de son cœur, j'avais tant de plaisir à manger ces mets délicats. Lorsque le major et Mittler vinrent prendre des nouvelles de la malade, ils trouvèrent le chirurgien et Charlotte autour d'elle. La céleste enfant, malgré sa pâleur mortelle, n'avait pas perdu connaissance, mais elle était toujours muette et immobile. On la pria de se coucher, elle refusa d'un geste, et fit approcher le coffre sur lequel elle appuya ses pieds. Ainsi, à demi étendue sur le canapé, elle paraissait plus à son aise, et son regard et sa physionomie annonçaient l'amour, la reconnaissance, et le désir de dire à tous ses amis un dernier et tendre adieu. En rentrant au château, Édouard apprend ce qui vient de s'y passer. Il se précipite dans la chambre d'Ottilie, se prosterne devant elle, saisit sa main et l'inonde de larmes. Après un long et terrible silence, il s'écrie tout à coup « N'entendrai-je plus jamais le son de ta voix ? Ne peux-tu revenir à la vie pour m'adresser un mot, un seul ? Eh bien, soit, je te suivrai. Au-delà de la tombe, nous parlerons un autre langage. » Ottilie lui pressa la main avec force et arrêta sur lui un regard plein de vie et d'amour. Les lèvres s'agitèrent longtemps en vain, elle respira profondément et laissa enfin échapper ses paroles. « Promets-moi de vivre !» Épuisée par ce dernier effort de sa tendresse, elle retomba sur ses coussins. « Je le promets !» murmura Édouard. Cette promesse ne la rencontra plus sur la terre. Elle la suivit dans un meilleur monde. Ottilie avait cessé de vivre. La nuit se passa dans les larmes. Charlotte se chargea du triste soin de faire ensevelir sa nièce. Le major et Mittler la secondèrent de tout leur pouvoir. Le désespoir semblait avoir anéanti Édouard. Il ne s'arracha à cet état que pour défendre positivement que l'on sortît sa bien-aimée du château. Puis il donna des ordres afin qu'elle fût traitée comme une malade, car il soutenait qu'elle n'était pas morte, qu'elle ne pouvait pas l'être. Craignant de l'irriter par la contradiction, on laissa le corps d'Ottilie au château, et il ne demanda point à le voir. Un nouvel incident se joignit bientôt à tant de sujets de douleur et d'alarme. Nanny venait de disparaître. Après de longues recherches, on la retrouva enfin, mais dans un état d'égarement qui tenait de la folie. Les reproches du chirurgien lui avaient fait voir que sous plus d'un rapport, elle avait contribué à la mort de sa maîtresse. On la ramena chez ses parents. Les consolations et les procédés les plus doux restèrent sans effet, et pour l'empêcher de s'échapper de nouveau, on fut obligé de l'enfermer. On réussit peu à peu à arracher Édouard à la stupeur où il était tombé d'abord, et par là on augmenta son malheur, car il ne pouvait plus se dissimuler que tout espoir était à jamais perdu pour lui. Le voyant plus tranquille en apparence, on chercha à lui faire comprendre qu'il était indispensable de déposer dans la chapelle les restes d'Ottilie, en ajoutant toutefois que dans cette silencieuse et riante demeure qu'elle-même avait aidé à décorer, elle ne cesserait pas de compter parmi les vivants. Il y consentit, mais à la condition expresse qu'elle serait déposée dans un cercueil ouvert, qui ne pourrait jamais être fermé que par un couvercle de verre, et qu'une lampe, toujours allumée, serait suspendue au plafond de la chapelle. Le beau corps d'Ottilie fut revêtu de la parure qu'elle s'était préparée elle-même, et l'on entoura son front d'une couronne de marguerites, dont les nuances variées formaient autour de sa tête une auréole prophétique. Pour orner le cercueil, l'église et la chapelle, on avait dépouillé les jardins de toutes leurs parures, Ils étaient sombres et déserts, comme si déjà l'hiver avait engourdi la végétation. Dès les premiers rayons du jour, on emporta Ottilie du château dans un cercueil découvert, et le soleil levant éclaira pour la dernière fois son beau visage et lui prêta les nuances de la vie. La foule se pressa autour d'elle. On ne voulait ni la devancer ni la suivre, mais la voir, la regarder et lui adresser un dernier adieu. L'émotion fut générale. Mais les jeunes filles, surtout, dont elle avait été la protectrice, étaient inconsolables. Nanny manquait au cortège. Pour ne pas augmenter son irritation par des images douloureuses, on lui avait caché le jour et l'heure de l'enterrement. Quoique enfermée chez ses parents, dans une chambre qui donnait sur le jardin, elle entendit le son des cloches qui lui fit deviner ce qui allait se passer. La garde chargée de veiller sur elle l'avait imprudemment quittée pour assister à la cérémonie. Restée seule, elle s'échappa par une fenêtre qui donnait sur le corridor, d'où elle monta au grenier, car toutes les autres portes de la maison étaient fermées. En ce moment, le cortège s'avançait lentement sur la route, jonchée de feuilles et de fleurs qui traversaient le village. Bientôt, il passa sous la lucarne du grenier, par laquelle Nanny voyait sa maîtresse, mieux et plus distinctement que tous ceux qui suivaient le cortège. Il lui semblait qu'elle était portée sur des nuages, et que, par un geste surnaturel, elle l'appelait, et la jeune fille, éperdue, hors d'elle, se précipita par la lucarne. La foule se dispersa de tous côtés avec des cris d'effroi, et les porteurs déposèrent le cercueil auprès duquel Nanny était tombée sans mouvement, et comme si tous ses membres eussent été brisés. On la releva, et, soit hasard, soit prédestination, on l'appuya sur le cadavre. Car le dernier souffle de sa vie semblait vouloir rejoindre celui de sa maîtresse bien-aimée. Mais à peine ses membres flottants eurent-ils touché les vêtements d'Ottilie, qu'elle se redressa d'un bond, leva les yeux et les bras vers le ciel, s'agenouilla devant le cercueil et contempla la morte dans une pieuse extase. Puis elle se leva comme animée d'une vie nouvelle et s'écria avec une sainte joie « Oui, elle m'a pardonné le crime dont personne en ce monde n'aurait pu m'absoudre, que je ne me serais jamais pardonné à moi-même. Dieu vient de me le remettre par son regard, par son geste, par sa bouche à elle. » La voilà redevenue silencieuse et immobile. « Mais vous l'avez vu tous se redresser et me bénir les mains déjointes élevées sur moi. Vous l'avez vu me sourire avec bonté. Vous l'avez entendu. Oui, vous êtes tous témoins qu'elle m'a dit. Tout est pardonné. Je ne suis plus une meurtrière parmi vous. Elle m'a absous. Dieu a confirmé ce pardon. Personne n'a plus le droit de m'adresser le moindre reproche. » La foule qui s'était réunie de nouveau se tint immobile. Tout le monde était surpris. On prêtait l'oreille, on regardait ça et là. On ne savait plus que faire, ni que devenir. « Portez-la maintenant à l'asile du repos, » continua Nanny. Elle a courageusement supporté sa part d'action et de souffrance. Elle ne peut plus demeurer parmi nous. Le cercueil se remit en marche. La jeune villageoise le suivit de près et arriva avec lui à la chapelle. En déposant les restes d'Ottilie dans cette chapelle, on avait placé à sa tête le cercueil de l'enfant et à ses pieds le magnifique coffre renfermé dans une caisse de chêne. Une garde spéciale devait, pendant les premiers jours, veiller sur le corps qui, à travers le couvercle de verre du cercueil, charmait encore tous les yeux. Mais Nanny ne voulait pas se laisser enlever ce qu'elle appelait son droit. Elle demanda à rester seule auprès de sa maîtresse et à veiller sur la lampe qu'on alluma pour la première fois. L'accent passionné dont elle exprima ce désir fit qu'on y céda, dans la crainte de porter à sa raison une atteinte dangereuse. Nanny, cependant, ne resta pas longtemps seule dans la chapelle. Dès que la nuit fut venue et que la lumière vacillante de la lampe y répandit sa clarté lugubre, la porte s'ouvrit et l'architecte franchit le seuil de ce lieu dont les murs pieusement décorés par lui et doucement éclairés par la lampe nocturne se présentaient à ses regards sous un aspect d'antiquité prophétique dont il ne les aurait jamais cru susceptibles. Nanny, assise près du cercueil, le reconnut aussitôt et lui indiqua par un geste silencieux les restes inanimés de sa maîtresse. L'extérieur de l'architecte annonçait la force et les grâces de la jeunesse, mais une puissance surnaturelle semblait l'avoir tout à coup refoulé sur lui-même. Muet, immobile, les regards fixés sur le corps d'Ottilie, il la contemplait, en joignant, ou plutôt en se tordant les mains avec un mouvement de désespoir compatissant. C'est ainsi que naguère il s'était tenu debout devant Bélisaire. En ce moment, ce n'était pas l'art, c'était la nature qui le faisait retomber dans la même position. Ottilie, morte comme Bélisaire aveugle, offrait un exemple terrible des abîmes où s'engloutissent toutes les espérances de la terre. Si Bélisaire nous force à regretter la valeur, la sagesse, le rang et la richesse perdues par la volonté du même prince qui avait d'abord cherché à développer, à utiliser ses rares qualités, on ne peut s'empêcher de voir dans Ottilie l'exemple de toutes les vertus modestes et bienfaisantes, à peine sorties des profondeurs mystérieuses où la nature se plaît à les cacher. Sa main froide et dédaigneuse les avait détruites presque aussitôt comme si elle se plaisait à se jouer de l'espèce humaine, qui accueille toujours avec une joyeuse satisfaction ses aimables et rares vertus dont l'influence lui est si nécessaire, tandis qu'elle déplore leur absence par un deuil sincère. L'architecte garda le silence. Nanny ne proféra pas une parole. Mais lorsqu'elle le vit fondre en larmes et prêt à succomber sous le poids de sa douleur, elle lui parla avec tant de force et de vérité, tant de bienveillance et de persuasion, que tout en s'étonnant du pouvoir qu'elle exerçait sur lui, il voyait avec elle la belle Ottilie planer et agir dans les régions célestes. Ses larmes s'arrêtèrent, sa douleur s'adoucit. Il se prosterna devant le cercueil, prit congé de Nanny par un cordial serrement de main, s'élança sur son cheval et franchit avant le jour les limites de la contrée où il n'avait été ni vu ni reconnu par personne. Le chirurgien, qui avait, à l'insu de Nanny, passé la nuit dans l'église, se rendit de bonne heure auprès d'elle et s'étonna beaucoup de la trouver calme et sensée, car il s'attendait à l'entendre parler de visions et d'entretiens nocturnes avec Ottilie. Mais si elle avait retrouvé complètement le souvenir du passé et la conscience du présent, sous tous les autres rapports, elle persistait à croire à la réalité de ce qui lui était arrivé pendant l'enterrement de sa jeune maîtresse, et elle répétait sans cesse, avec autant de joie que de conviction, que le cadavre s'était redressé sur son cercueil pour l'appeler, lui pardonner et la bénir. Ottilie continua à paraître endormie. Aucun symptôme de destruction ne se fit sentir, et ce phénomène, joint au miracle que Nanny racontait à tout venant, attira les habitants de la contrée. Les uns venaient pour se moquer, les autres pour se confirmer dans leurs doutes, un très petit nombre pour espérer et croire. Tout besoin dont la satisfaction matérielle est impossible engendre la foi. Nanny, brisée par une chute terrible aux yeux de la population de tout un village, avait été rappelée à la vie par le simple attouchement des restes d'Ottilie. Pourquoi d'autres malades ne jouiraient-ils pas du même bonheur? Cette pensée devait nécessairement germer dans la tête des jeunes mères dont les enfants souffraient de quelque mal incurable. Elles les apportèrent en secret près du cercueil, et les guérisons subites, qui peut-être n'étaient qu'imaginaires, augmentèrent tellement la confiance générale que l'affluence des infirmes devint telle qu'on se vit forcé de leur interdire l'entrée de la chapelle. Édouard n'avait osé une seule fois aller visiter Ottilie. Ne vivant plus que de la vie animale, la source des larmes s'était tarie dans son cœur. Il semblait être devenu inaccessible à la douleur morale. Ne prenant plus aucun intérêt à ce qui se passait autour de lui, on le voyait chaque jour diminuer la dose de nourriture qu'il avait l'habitude de prendre. S'il se ranimait parfois, ce n'était qu'en buvant dans le verre, qui, malheureusement, n'avait été pour lui qu'un faux prophète. Cependant, il contemplait toujours avec plaisir ces chiffres enlacés, et son regard semblait dire qu'il continuait à y voir le pronostic d'une prochaine réunion. Si l'homme heureux s'appuie sur chaque hasard, sur chaque circonstance fortuite, pour s'élever toujours plus haut dans la sphère de son bonheur, les incidents les plus légers suffisent pour abattre et désespérer ceux qui souffrent. Un jour, qu'Édouard allait porter à ses lèvres son verre chéri, il l'éloigna tout à coup avec effroi, car il venait de s'apercevoir de l'absence d'un signe particulier dont il l'avait marqué et que lui seul connaissait. Le valet de chambre fut forcé d'avouer que le véritable verre avait été cassé et remplacé par un autre parfaitement semblable et qui datait également de la première jeunesse du baron. Édouard ne manifesta ni colère ni chagrin. Convaincu que le sort venait de prononcer son arrêt, l'emblème de cet arrêt ne pouvait l'émouvoir. Cependant, si jusque-là il s'était abstenu de manger, il était facile de voir que dès ce moment, les boissons ne lui plaisaient plus. Et bientôt après, il cessa de parler. Une inquiétude cruelle le dominait de temps en temps. Alors, il redemandait de la nourriture et se remettait à parler. « Hélas, dit-il dans un de ces moments au major qui ne le quittait jamais, que je suis malheureux! Tous mes efforts pour l'imiter ne sont qu'une vaine parodie. Ce qui était un bonheur pour elle est une torture pour moi. C'est par respect pour ce bonheur que je supporte cette torture. Il faut que je la suive sur la route qu'elle a choisie pour me quitter. » Mais la force de ma constitution et la promesse que j'ai eu l'imprudence de lui faire me retiennent. Quelle terrible tâche que de vouloir imiter ce qui est inimitable. Je le sens, cher ami, il faut du génie pour tout, même pour subir le martyre. » L'état d'Édouard était si désespéré qu'il nous paraît inutile de parler de la tendresse conjugale, des attentions, de l'amitié et des secours de l'art qui, pendant quelque temps encore, entourèrent cet infortuné. Un matin, Mittler le trouva mort dans son lit. Il appela le chirurgien et examina, avec sa présence d'esprit habituelle, toutes les circonstances de ce trépas subit. Charlotte accourut, le soupçon d'un suicide se présenta à sa pensée. Elle accusa tout le monde et s'accusa elle-même d'une négligence impardonnable. Mittler et le chirurgien la convainquirent bientôt du contraire. L'un s'appuyait sur des causes morales et l'autre sur des preuves matérielles. Il était facile de voir qu'Édouard avait été surpris par la mort. Un petit coffre et un portefeuille contenant des fleurs qu'Ottilie avait cueillies pour lui dans des moments de bonheur, les billets qu'il lui avait écrits, sans en excepter celui que Charlotte avait relevé et qu'elle lui avait remis d'une manière si prophétique, une boucle de ses cheveux et plusieurs autres souvenirs de son ami, qu'il avait toujours soigneusement caché, étaient ouverts devant lui. Et certes, il ne pouvait pas avoir eu l'idée d'exposer ses précieux trésors aux regards indiscrets du premier valet que le hasard aurait pu conduire dans sa chambre. Ce cœur, que la veille encore des émotions violentes faisait tressaillir, avait enfin trouvé le repos. Et l'on pouvait croire à son salut éternel. puisqu'il avait cessé de battre en s'occupant d'une bienheureuse, d'une sainte. Charlotte lui accorda une place à côté d'Ottilie et donna des ordres pour que jamais personne ne fût à l'avenir déposé dans cette chapelle. Ce fut à cette condition expresse qu'elle dota richement l'église et l'école, le pasteur et le maître d'école. Les deux amants reposent enfin l'un à côté de l'autre. La paix règne dans leur éternelle demeure, et du haut de la voûte de cette demeure, des anges, auxquels une mystérieuse parenté semble les unir, les regardent avec un sourire céleste. Quel ne sera pas le bonheur de ces amants, lorsqu'un jour ils se réveilleront ensemble et si près l'un de l'autre?